Steve, je vous rappelle que l'invité de France Inter depuis 8h20 ce matin est le philosophe Alain Finkielkraut. Son dernier livre est consacré à l'école et il est publié aux éditions Stock. Je vous en donnerai toutes les références tout à l'heure. Un mot de ce que vous nous avez dit à 8h20, Alain Finkielkraut. Nous sommes engagés pour vous dans ce que vous avez appelé un processus de décivilisation lié à ce que vous avez appelé également une invitation constante à la bassesse et qui touche l'ensemble de la société. Un certain nombre de symptômes, le bruit et l'impunité. Ça, c'était le cas que vous preniez dans les banlieues. Deuxième symptôme, l'attitude de Bartabas qui a cassé un certain nombre de meubles à la direction régionale des affaires culturelles et qui exige des excuses pour avoir fait ça. Et le troisième exemple, c'était l'exemple pris, comme vous l'avez dit, chez les élites people de la République autour de l'émission de Thierry Ardisson qui a décerné l'alien d'or de la mort la moins importante. Et tout le monde a dit celle de Lustiger, la mort la moins importante en 2007. Alors, toutes les questions sont maintenant posées. J'en ai juste une toute petite. Pourquoi vous êtes venu avec ce que j'ai pris pour un bottin dans un premier temps, mais qui est en fait à la recherche du temps perdu de Proust, édition complète chez Gallimard.
Édition Poirot. Complète, d'ailleurs, c'est beaucoup trop lourd, parce que je suis retombé sur un développement absolument magnifique. Au tout début de la recherche, c'est l'enfant Marcel, très jeune, et on parle de sa grand-mère qui veut lui offrir un cadeau. Il est vraiment enfant, et elle voulait lui offrir un volume de Rousseau, et on lui dit non, non, alors elle se rabat sur les romans champêtres de George Sand, et il y a cette phrase absolument extraordinaire, elle ne se résignait jamais à rien acheté dont on ne put tirer un profit intellectuel et surtout celui que nous procurent les belles choses en nous apprenant à chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité. Voilà. Eh ben, la civilisation, c'est en effet l'expérience des belles choses et il n'y a plus beaucoup de grand-mères de Proust dans le monde d'aujourd'hui.
Vous pensiez à qui en relisant ce texte?
À qui?
À une personne en particulier?
Non, je pensais en le lisant à cette extraordinaire pertinence de Proust et de la grand-mère de Marcel, cette différence qui est faite entre les plaisirs, si vous voulez. L'anti-intellectualisme, ça consiste à dire vous vous prenez la tête, on a envie de se faire plaisir. Or, il faut non seulement admettre, mais cultiver l'idée de plaisir difficile. Voilà, c'est ça. C'est toute la culture, c'est le plaisir difficile. Et dans la mesure où l'idée d'un plaisir difficile disparaît, alors nous sommes engagés dans un processus de déculturation des esprits.
Christian nous appelle de Dordogne. Bonjour Christian et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour tous. Oui, ne pourrait-on pas dessiner un projet de civilisation ou de société, pour être un peu plus humble, qui serait aussi distant de l'empire romain ou américain que celui de l'ex-empire soviétique. Et quant à la culture, ma foi, est-ce que donnera la privatisation l'élimination de la pub dans les chaînes nationales, alors que je ne vois pas comment on pourrait élever la culture sans, c'est toujours le même dilemme.
Oui, bah écoutez, on va le soumettre à Alain Finkielkraut.
Non, oui.
Allez-y.
Oui, enfin, je ne vois pas le dilemme. Enfin, la suppression de la publicité dans les chaînes publiques, c'est ce à quoi la gauche aurait dû s'atteler, mais elle a oublié ce que Mandelstam appelait la splendide promesse faite aux tiers-État, une promesse qui n'était pas exclusivement économique. L'économie ne régit pas tout. Quant aux questions politiques d'allégeance et d'alliance, elles n'ont rien à voir avec ce qui nous occupe. Mais moi, je suis, si vous voulez, à la fois intéressé et alarmé par ce thème dont vous avez parlé tout à l'heure, de la nouvelle Renaissance. C'est plutôt une retrouvaille avec l'esprit de la Renaissance qui s'impose. C'était quoi la Renaissance? C'était la rupture de l'Europe avec la théologie. Tout d'un coup, le souverain bien, ce n'est plus la religion, c'est la culture. Mais cette rupture, elle s'est faite au travers d'un retour et même d'un lent détour par les œuvres d'humanité déposées dans les signes de culture. Et en l'occurrence, il s'agissait des anciens. L'idée que nous accédions à la compréhension du monde et de nous-mêmes par cette médiation-là, c'était pas nécessairement Cicéron, c'était les œuvres. Or, c'est cette idée qui est oubliée, cette idée du détour, de la médiation, parce que nous vivons dans une société de l'immédiat. Donc, nouvelle renaissance, c'est un slogan, esprit, retour à l'esprit de la renaissance, oui, ça aurait un sens.
Mais vous y croyez à ce que vous venez d'appeler un slogan? Est-ce que nouvelle renaissance politique de civilisation, c'est d'après vous, Alain Finkielkraut, un slogan politique?
Non, pas nécessairement, on verra. Tout dépend de ce qui sera fait pour l'école et à l'école.
Pompidou disait quasiment la même chose en 1969 dans nouvelle des faits, une ressemblance frappante avec ce qu'a prononcé Nicolas Sarkozy.
Tout est possible, bien entendu. Ça peut être de la poudre aux yeux. Nous n'en savons rien. Mais en tout cas, si vous voulez, pour le dire comme le président Chirac a un autre propos, la maison brûle. L'autre jour dans Le Monde, il y avait une interview fascinante de Jean-François Kahn par les journalistes du Monde, sous le titre « Secourons les journaux ». Et que nous disait Jean-François Kahn? Eh bien, c'est que les phrases trop longues n'avaient plus lieu d'être dans les journaux et qu'après 8 ou 9 mots, il fallait répéter le sujet parce que sinon les gens n'y comprenaient rien. Et il ne fallait pas faire référence à Yalta. Et il disait « Je le regrette parce que j'aime la phrase cicéronienne ». Mais, disait-il, il faut s'adapter. Eh bien, parler d'une politique de civilisation, c'est dire « Non, il ne faut pas s'adapter » et donc arrêter de nous raconter que le mouvement c'est bien, la vie c'est bien, parce que le niveau ne monte pas. Si il y a 80% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat, et si dans le même temps, la langue dans tout son déploiement n'est plus comprise, et qu'il faut faire pour que les journaux survivent des phrases courtes, sans aucune référence culturelle, alors on a un problème, et la politique se doit de le prendre en charge.
Ludovic nous appelle de Paris. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour. Ma question s'adresse donc au philosophe que vous êtes, monsieur Finkielkraut. Ne trouvez-vous pas que Nicolas Demorand parle trop fort? Pour certains, il braille comme un âne. Pour d'autres, il braille. J'aimerais avoir votre avis sur ce dossier.
Eh ben, Alain Finkielkraut va vous répondre. Ludovic, vous voyez que la démocratie et la transparence sont la règle à France Inter, puisque vous pouvez tromper tout un standard pour ensuite m'injurier personnellement. J'imagine que ça fait partie des risques du métier, Alain Finkielkraut.
Écoutez,
qui parle fort aussi. Hein.
Mais je parle fort en effet, parce que j'ai envie d'arriver jusqu'au bout de ma phrase, et je me dis qu'en parlant fort, j'y réussirai. Bon, écoutez, j'ai été invité 2 fois par vous. La première fois, ce fut très combatif, très pugnace. Aujourd'hui, ça l'est moins. Ce sont les aléas, mais je n'ai en réalité qu'à me féliciter de votre hospitalité.
Merci infiniment, Alain Finkielkraut. Et tous les ânes ne s'appellent pas Ludovic. Geneviève nous appelle de Haute-Savoie.
Allô?
Oui, on vous écoute, Geneviève.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, j'ai une question qui est à la fois aussi un avis, peut-être plus qu'une question d'ailleurs. Moi, je voudrais savoir si vous pensez que Monsieur Sarkozy, donc notre président de la République, qui est quelqu'un qui incite à la haine des immigrés contre les Français, à la haine des improductifs contre les productifs, à la haine de ceux qui travaillent contre ceux qui ne travaillent pas, qui est un monsieur qui ne sait pas réagir de façon digne à des attaques verbales, pour lesquelles on entend et on ne voit sur les journaux que parler de combat, de bataille. Je voudrais savoir si vous pensez que ce monsieur, qui parle aussi de façon très châtiée, est digne de parler de politique de civilisation.
Eh bien, Alain Finkielkraut vous répond, Geneviève.
Écoutez, je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy soit le seul homme politique à puiser ses références et ses métaphores dans le vocabulaire polémologique. Hein, la bataille, les batailles qu'il faut mener, on entend ça partout et tout le temps. Quant à l'arrogance, il faudrait que les journalistes s'habituent eux-mêmes, si vous voulez, à l'insolence. Ils n'ont pas le monopole de l'insolence. Ils sont insolents, eh bien, on peut aussi les engueuler, et ils y survivront, et ils y survivent très bien, et ils font payer très cher à ceux qui les engueulent toutes les engueulades. Non, il y a des reproches réels, des griefs réels à faire à Nicolas Sarkozy, je l'ai dit, une certaine contradiction entre son comportement et les valeurs dont il se réclame, l'obsession d'une politique du résultat, mais je ne crois pas que cela relève de l'incitation à la haine, et je regrette d'ailleurs que l'anti-sarkozisme pendant la campagne qui était électorale, qui était tout à fait justifié, se soit laissé aller à l'antifascisme et à la haine. Et je rappelle qu'il y a un humoriste aujourd'hui qui se croit le droit, et c'est toujours ce droit à l'abjection dont je parlais des people, de le traiter de nain. Et je connais un grand philosophe qui parle de lui comme d'un homme au rat, et de ceux qui ont voté pour lui comme de rat. Donc il y a aussi un retour de la radicalité en politique qui me paraît très inquiétant. Je ne plaide pas pour le sarkozisme, mais pour une critique pertinente.
Alors, pour paraphraser la question de Geneviève et employer vos propres mots, Alain Finkielkraut, Nicolas Sarkozy nous montre-t-il la voie des plaisirs difficiles ?
Il le dit, le fait-il ?
Non. Alors, je vous pose la question.
Ça aussi, ça pourrait relever du domaine du privé. Et la civilisation, c'est précisément l'idée d'un rideau entre la vie privée et la vie publique.
Le rideau, il a été ouvert, là.
Mais il est ouvert des deux côtés. C'est pour ça que la société doit être prise dans son ensemble. Vous l'avez bien vu, les journalistes étaient, et notamment étrangers, je ne parle pas français, étaient passionnés par le feuilleton Carla Bruni, et si la question est venue en deuxième, dans l'esprit de la majorité des présents dans cette salle, elle aurait dû venir en premier. Donc, mais je regrette également que Nicolas Sarkozy se prête à ce jeu-là par des voyages dont il sait qu'ils seront nécessairement médiatisés. Et alors, si ces voyages sont médiatisés, s'il sait qu'il est sous le feu des caméras, il se doit même hypocritement d'avoir un comportement exemplaire. C'est-à-dire, en effet, je remets ça au nom de la grand-mère de Proust, pas Euro Disney.
Une question sur une image, Alain Finkielkraut. Avez-vous vu à la télévision l'image du fils de Carla Bruni et de Raphaël Antoven se cachant les yeux alors qu'il est sur les épaules du président de la République? Comment avez-vous reçu cette image?
Je l'ai trouvée absolument extraordinaire, c'est-à-dire que c'était le plus digne des trois, ou des quatre, ou des cinq, plus digne que les photographes, plus digne que le JDD, plus digne que sa mère, et plus digne que le président qui le portait déjà sur ses épaules. Nous vivons aussi une époque d'accélération, et l'accélération du temps, eh bien, elle perturbe, elle affaiblit la civilisation. La civilisation a à voir avec la lenteur.
Elle est terrible, cette image.
La vie privée elle-même devenait un clip, et lui, justement,
un petit enfant.
C'était le geste de protestation contre l'exhibitionnisme, les Ray-Ban, les lunettes de soleil, c'est le contraire. C'est-à-dire, je m'exhibe me cachant. Lui se cachait vraiment. Alors, bien sûr, mais si la civilisation se réfugie là, on a de quoi s'inquiéter.
Une question, Bernard Guetta.
Oui, Alain Finkielkraut, vous qui êtes tellement attaché, à juste titre d'ailleurs, à la transmission, à l'exemplarité des élites, tout simplement à la reproduction culturelle, est-ce que vous n'êtes pas aussi inquiet par la dernière conférence de presse du président de la République que par la dernière émission d'Ardisson que vous citiez? Car enfin, quand le président de la République transforme sa conférence de presse en numéro de cabaret, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu inquiétant?
Alain Finkielkraut.
Bon, je ne l'ai pas suivi dans son intégralité. J'avais énormément de travail, j'en ai regardé une demi-heure. Dont on peut s'inquiéter, en effet, c'est la mainmise de l'esprit du showbiz sur toutes les activités humaines. La politique de civilisation ne peut pas aller de pair avec une showbisation.
C'est exactement ce que j'avais en tête.
De la politique. Oui. Et moi, j'ai été frappé par le livre de Yasmine Areza, qui n'est pas, contrairement à ce qu'a dit la presse, un livre d'obséquiosité, parce qu'il y a ce passage tout à fait inquiétant où le futur président veut absolument rencontrer Marc Lévy, parce que Marc Lévy,
le romancier,
eh bien, il a des millions de lecteurs. Donc voilà. Donc les romanciers, les acteurs, les politiques ont un public. Non, les politiques n'ont pas un public. Là, il y a une part de spectacle, mais nous sommes dans un autre registre. Vous avez raison de le rappeler. Cependant, moi, je ne veux pas, encore une fois, que les politiques soient les boucs émissaires sur lesquels la société se décharge de ses propres turpitudes. Donc, s'il faut faire une hiérarchie, je dirais que le symptôme, salut les terriens, le symptôme, l'événement, en tant qu'il est symptomatique, est beaucoup, beaucoup plus grave parce que les gens aujourd'hui, les jeunes notamment, vont chercher leur modèle, non pas chez les politiques qui sont des marionnettes, qui sont préemptés par leurs marionnettes, mais chez ces célébrités-là, chez ces people-là, qui réclament, qui proclament le droit à l'ignoble et qui pratiquent une invitation perpétuelle à la bassesse.
Allez, on passe au standard où Rémi nous appelle du territoire de Belfort. Bonjour Rémi.
Bonjour Monsieur Finkielkraut. Vous parliez tout à l'heure d'élever les enfants au sens noble du terme. Donc j'aurais une question très simple à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de réinstaurer des cours de morale laïque et citoyenne dès l'école primaire?
Alain Finkielkraut vous répond, et laïque est un mot important hein, dans le contexte d'actualité aussi.
Oui, des cours de morale laïque, oui. Citoyenne, cet adjectif m'inquiète énormément parce que initiative citoyenne, aujourd'hui, c'est devenu, si vous voulez, un parcours obligé. C'est-à-dire, éducation sans frontières, c'est une initiative citoyenne. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisqu'il n'y a pas de citoyenneté précisément sans frontières. Toute la philosophie politique d'Aristote à Hannah Arendt nous l'apprend. Donc, il y a, si vous voulez, une générosité compassionnelle qui s'abrite derrière le terme de citoyen pour imposer au détriment de toute discussion, ses propres critères, ses propres désirs. Donc je ne veux pas que, sous couleur d'enseigner les grands principes, on endoctrine les valeurs. L'endoctrinement est mauvais, même si la doctrine est sympathique.
Dernière question très rapide, Alain Finkielkraut, quand le président dit qu'un prêtre est mieux à même d'enseigner à des jeunes enfants ce qu'est le bien et le mal qu'un instituteur aujourd'hui, ça vous effraie, ça vous séduit?
Non,
quelle est votre réaction?
Ça ne m'effraie pas parce que aujourd'hui, le combat de l'Église et de l'école a cessé. Le risque, c'est celui d'une absorption de l'école dans le social. Le risque de la désanctuarisation de l'école. Quant à la question du bien et du mal, non. L'instituteur, disait Péguy, est le représentant de la culture. Il n'est pas le représentant de l'État. Il parlait d'instituteur. Et qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que la lecture? C'est une merveille, c'est une extraordinaire jurisprudence de la vie humaine. Et l'enseignement du bien et du mal se fait à travers des cas, à travers la jurisprudence, c'est-à-dire à